En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans son ville d'origine. Joseph, lui, haussa et monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs, je ne sais pas comment cette phrase résonne dans vos cœurs. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Il y a pour moi une scène de l'Évangile très évocatrice sur l'expérience que nous pouvons faire du salut. Alors, ça se passe au moment où Pierre marche sur l'eau, vous connaissez la scène, je pense. Et voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Alors, à ce moment-là, Pierre fait l'expérience de son impuissance, de sa vulnérabilité. Il a clairement conscience qu'il ne peut pas s'en tirer tout seul. Il est pris d'une grande angoisse aussi, non seulement parce qu'il va se noyer, mais aussi parce qu'il se sent happé par les forces du mal, entraînés vers les abîmes. Vous savez que pour les Juifs de cette époque, la mer, c'était vraiment le domaine des forces mauvaises, des forces maléfiques. Alors à ce moment-là, il n'a pas de mal pour sortir sa voix et son cri monte avec puissance du plus profond de ses entrailles. « Seigneur, sauve-moi !» Mais alors, quel est le salut que Jésus vient nous apporter ? De quoi Jésus vient-il nous sauver ? Alors, dans le cas de Pierre, qui est en train de s'enfoncer dans l'eau, bon, on le voit, on comprend assez bien. Mais pour nous, quand l'évangéliste nous dit « Aujourd'hui, vous est né un sauveur » et qu'on va devant la crèche, on voit un petit enfant. Alors, de quoi Jésus nous sauve-t-il ? Alors, les évangélistes et saint Paul nous donnent diverses indications. J'en retiendrai trois. D'abord, Jésus nous sauve du péché. Quand saint Matthieu, vous vous rappelez certainement aussi de l'annonce de la naissance de Jésus, l'annonce à Joseph. Alors, l'ange dit à Joseph, « Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. » Et il le répète, « Car il sauvera son peuple de ses péchés. » Alors, si vous vous mettiez à la place de Saint-Pierre, vous voyez que le péché commence à avoir une prise sur vous, que c'est comme une force qui vous tire vers le bas, vous commencez à boire le bouillon. Alors c'est le moment ou jamais de crier comme lui, « Seigneur, sauve-moi !» Alors ce péché qui a une prise sur nous, ça peut être l'envie de dire du mal de quelqu'un, ça peut être un désir de colère, de vengeance, ça peut être la convoitise qui vous incite à faire des choses que vous savez bien être mauvaises. Bon, je ne vais pas énumérer parce que le péché, hélas, a une multitude de formes. Mais en tout cas, le péché, c'est ce qui nous fait sombrer dans la mer de l'amertume, de la tristesse, du ressentiment, de la haine, de la désespérance. Apparemment, l'enfant de la crèche apparaît bien faible. Et justement, c'est par son humilité que Dieu vient toucher nos cœurs, d'autant plus quand ils sont endurcis. Et c'est sans doute pas par hasard que la nuit de Noël a été l'occasion de grandes conversions. Alors, nous connaissons tous celle de la petite Thérèse, et aussi Paul Claudel, mais beaucoup d'autres conversions la nuit de Noël. Alors, nous pouvons aussi nous approcher de la crèche, nous aussi, ce soir, en demandant à Jésus la force de sa grâce pour ne pas nous laisser entraîner par le péché. Vous avez toujours cette image de Pierre là, qui commence à se laisser engloutir par les flots. Ou alors, hélas, si déjà on a déjà commis le péché, nous pouvons lui demander de nous relever, comme avec Saint-Pierre, Jésus qui tend la main, allez, et qui ne permet pas que Saint-Pierre soit complètement englouti, qui le remet à flot, si on peut dire. Voilà, donc Jésus d'abord nous sauve du péché. Jésus nous sauve aussi de la mort. Et si Jésus, ça paraît une évidence, mais si Jésus s'est fait chair, c'est précisément afin de pouvoir mourir. Les pères de l'Église aiment à insister sur justement l'immortel est devenu mortel. Et par là, il nous invite aussi à ne pas craindre la mort. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur certaines icônes de la Nativité, certaines icônes de Noël, la crèche est représentée sous la forme d'un tombeau, d'un sarcophage. Et l'enfant Jésus est entouré de l'ange qui ressemble au linge et aux bandelettes que Jésus portait lorsqu'il était dans le tombeau. Alors, ça peut nous sembler un petit peu rabâchement de dès sa naissance nous le présenter comme dans un tombeau. Et pourtant, c'est précisément pour nous donner accès justement à la vie éternelle que Jésus accepte de se faire chair, de se faire petit enfant. Si Jésus est mort, c'est pour nous. S'il est ressuscité, c'est encore pour nous. Et s'il est venu sur terre, c'est pas pour nous laisser sur terre, c'est pour nous conduire au ciel. Alors saint Paul nous dit bien qu'il fallait qu'au bénéfice de tout homme, il goûtât la mort. Et Jésus nous dit dans l'évangile de saint Jean, « Qui croit en moi ?» Et on peut penser à ça devant l'enfant de la crèche, « Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Alors donc, si nous sommes touchés, saisis par l'angoisse devant la mort, là encore, nous pouvons nous approcher de la crèche de Jésus en lui criant « Seigneur, sauve-moi !» Donc Jésus qui nous sauve du péché, de la mort, mais aussi du découragement et de la désespérance. Alors le salut opéré par le Christ, un aspect négatif, qui est cette libération du péché, cette libération de la mort et des puissances du mal, mais il a aussi un aspect positif qui consiste à nous donner la vie nouvelle, la liberté des enfants de Dieu, à nous donner l'Esprit Saint. Dans l'Évangile, Jésus ne nous propose pas une vie au rabais, et la vie qu'il nous propose dépasse largement nos capacités humaines. Vous pensez certainement à des passages de l'Évangile qu'on a quelquefois un petit peu de mal à mettre en pratique, aimer ses ennemis, pardonner, les béatitudes, heureux ceux qui pleurent, heureux voilà, ceux qui sont persécutés. Ça nous semble comme des sommets un peu inaccessibles. Et alors, devant de telles exigences, on peut être tenté quelquefois d'être découragé. Oh, c'est trop difficile, c'est pas pour moi, c'est hors de portée. On le voit dans l'Évangile, ça arrive à des disciples qui disent, comme à la fin du discours sur le pain de vie, « Oh non, c'est trop dur. Non, on ne peut pas continuer à te suivre. » Mais les premiers chrétiens ont expérimenté dans leur vie que le Christ leur donnait la possibilité de mener une vie nouvelle. Et alors ça a aidé les pères de l'Église qui ont réfléchi sur la personne du Christ. Ils se disaient, mais le contact avec Jésus nous divinise. Donc ça veut dire qu'il est Dieu. Et en même temps, si le Verbe de Dieu, si le Christ n'avait pas assumé telle ou telle dimension de notre humanité, elle n'aurait pas été sauvée dans son intégralité. Alors là encore, si peut-être quelquefois nous sommes un peu tentés par une forme de scepticisme, de relativisme, la tentation de ramener l'Évangile à ce que nous pouvons faire, alors là aussi, nous pouvons nous approcher de la crèche en disant « Jésus, toi qui es vrai Dieu et vrai homme, sauve-moi. Donne-moi de croire à ta grâce qui peut infiniment plus que mes pauvres forces humaines. » Vous pensez encore à Saint-Pierre qui marche sur l'eau, ça c'est pas dans les capacités humaines. Voilà, donc Jésus, l'enfant de la crèche, vient nous sauver du péché, de la mort, du découragement devant les exigences de l'Évangile. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Et si vous reconnaissez en Jésus le sauveur que vous attendez, alors la joie que l'ange annonce dans l'Évangile, je vous annonce une grande joie, une bonne nouvelle. Alors cette joie, elle est pour vous. Et alors aussi, vous pouvez vous associer à la troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Alors, juste un petit point pratique peut-être pour ce temps de Noël. N'hésitez pas à reprendre le Gloria. Nous ne l'avons pas chanté pendant tout le temps de l'Avent pour mieux l'apprécier à nouveau à l'occasion de Noël. Mais de chanter, de redire ces paroles du gloire à Dieu pour, avec cette conscience d'être sauvé par Jésus, sauvé du péché, de la mort et de la désespérance. Amen.